Les droits des femmes, c'est évidemment à la une de la presse de ce 8 mars. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud et bonjour Aïssa.
Bonjour.
Une lutte perpétuelle, les droits des femmes.
Oui, en ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, c'est le constat dressé par Libération. Contexte politique réac, menace sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, élection de Donald Trump. Cette année, le torchon rebrûle, pour reprendre le titre de une du quotidien. Et pour Libération, un seul mot d'ordre, la lutte. Au moment du vote de la loi sur la parité en politique en 2000, rappelle le journal, beaucoup pensaient encore qu'on pouvait parvenir à l'égalité femmes-hommes, non pas par la contrainte, mais par l'éducation, par un changement des mentalités. La suite a démontré que si l'on n'impose pas ces changements, ils ne viendront jamais d'eux-mêmes, s'exclame Libé, que la défense des droits des femmes doit peu attendre des hommes, que le pouvoir ne se donne pas, il se prend seulement si on veut le prendre. Car il s'agit bien d'une lutte, pas d'une discussion amicale au bar de l'Assemblée nationale. Et on peut comprendre, poursuit Libération, que beaucoup de femmes ont décidé de ne plus rien laisser passer, de ne plus faire la moindre concession, de ne plus céder le moindre pouce de terrain. On peut entendre cette exaspération devant une situation qui ne progresse plus, voire régresse, car si même une journée prétexte comme celle du 8 mars devient un épicentre de la lutte, conclut Libération, c'est que la situation n'est plus tenable. En effet, renchérit le Midi Libre, tous les ans, le 8 mars, il faut le rebattre, ce sujet des droits des femmes, ou plutôt de ces droits pas appliqués, pas reconnus et souvent moqué. Dans le combat pour l'égalité homme-femme, les beaux discours et les incantations ne suffisent pas, renchérit la Nouvelle République du Centre-Ouest, surtout quand certaines avancées qu'on aurait pu considérer comme acquises sont de plus en plus menacées et remises en question par certains extrémistes. Il faut aller plus loin dans la sensibilisation et dans la coercition. Le président de la République pourrait d'ailleurs demander à ce que tous les ministères s'emparent de la question et en fassent, estime le journal, une condition à tout projet législatif. Et alors, les incantations et les promesses de campagne prendraient tout leur sens. Enfin, ce 8 mars reste une journée de combat, conclut le Républicain Lorrain, entre les tours des cités, dans les hémicycles où se fabriquent les lois, et aussi devant la machine à café.
Issa Maïga, vous diriez ça vous aussi, c'est une journée de combat le 8 mars ?
C'est une journée symbolique, parce que le combat, il se mène évidemment toute l'année, et je pense que toutes les, que soient les associations, les mouvements, les collectifs féministes, n'attendent pas cette journée-là pour se mobiliser. Mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que la plupart du temps, les droits existent. La loi est là et elle est censée protéger les citoyens, les citoyennes, pour assurer l'égalité des chances. Donc quand on voit que la loi ne suffit pas, que ce cadre-là n'est pas respecté, on peut comprendre qu'il y a une forme de radicalité qui s'exprime et que certaines femmes se disent « bon, on n'a plus le temps, il va falloir attendre encore combien de générations pour accéder à l'égalité réelle ? Combien de générations pour être libre, pour être des citoyennes ?»
Donc il faut se battre.
Absolument.
Merci Aïssa. À la une également dans la presse aujourd'hui, Frédéric, la campagne présidentielle avec un écart qui se réduit entre les deux favoris du premier tour.
Oui, s'il faut en croire le baromètre publié par les Échos, à J-46, Emmanuel Macron recueillerait 25% des voix, juste derrière Marine Le Pen, 26%, loin devant François Fillon, 20%. Macron qui progresse donc, d'autant, souligne le Figaro, d'autant que les poids lourds du Parti Socialiste sont prêts à se rallier. En effet, poursuit le journal, le leader d'En Marche peut se réjouir. Tous les jours, il enregistre les ralliements de poids lourds du PS. Ce devrait être encore le cas ce mercredi, croit savoir le Figaro, avec Bertrand Delanoë. L'ancien maire de Paris a prévu en effet d'officialiser son soutien à Emmanuel Macron. Dans les prochains jours, toujours d'après le Figaro, ce serait au tour de Jean-Yves Le Drian, le très influent ministre de la Défense. Hier, ce sont aussi, rappelle le journal, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, Patrick Kanner, le ministre des Sports, ou encore Juliette Méadel, la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, qui ont fait état de leur difficulté à se reconnaître dans la candidature de l'ex-frondeur Benoît Hamon, jugé bien trop à gauche. Commentaire du Figaro, l'expression qui vient à l'esprit pour décrire cette coalition hétéroclite est bien celle d'auberge espagnole, à forte coloration socialiste évidemment. Avis sur ce point-là aux friands de nouveautés, ils seront déçus.
Et du côté du candidat socialiste, Benoît Hamon, ça ne va pas fort.
La campagne de Benoît Hamon est engluée, constate Paris Normandie. Il ne parvient guère à se faire entendre. La famille socialiste est gagnée par les doutes face à cette situation. Benoît Hamon se voit contraint de réagir en rabotant ce qu'il avait jusqu'à présent brandi tel un totem, à savoir son projet de revenu universel, dans le seul but de rabibocher une gauche éparpillée façon puzzle.
Et puis François Fillon, remis en selle, mais jusqu'à quand ? C'est Sud-Ouest qui s'interroge.
Oui, il fera campagne Clopin, oui, jusqu'à l'élection, fort de son projet et d'une incontestable force dans l'adversité, pointe Sud-Ouest, mais adossé à un parti hémiplégique et réduit à sa frange la plus droitière. Et puis François Fillon, qui doit encore faire face à de nouvelles révélations du Canard enchaîné ce matin, un nouveau caillou dans le mocassin, ironise l'hebdomadaire. Un prêt de 50 000 euros accordé en 2013 par son ami, le généreux milliardaire Marc Ladré de la Charrière, non déclaré au fisc. Policiers et magistrats s'interrogent aussi sur les très coûteux travaux effectués par François et Pénélope dans leur manoir sartois. Bref, conclut le Canard enchaîné, de quoi meubler agréablement la conversation prévue le 15 mars prochain au Palais de Justice entre le candidat et le juge Serge Tournet.